Réplique, vivant pilier, avec Régis Debray. Régis Debray, c'est un bonheur, ne nous laisse jamais longtemps sans nouvelles. Dans son dernier livre, dont le titre « Où de vivants piliers » est emprunté aux fleurs du mal, la nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles, Debray se tourne, nous dit-il, vers ceux de ses aînés qui l'ont aidé à grandir. Avec une légèreté mélancolique, glissé mortel n'appuyait pas, il s'acquitte de sa dette sous la forme d'un abécédaire. Nous le feuilletterons aujourd'hui. Et plutôt que de suivre l'ordre alphabétique, je voudrais commencer, Régis Debray, par la lettre M, c'est-à-dire, en l'occurrence, par un écrivain dont j'ai été très étonné d'apprendre qu'il figurait dans votre panthéon personnel, l'auteur de Thérèse d'Équerroux et d'Une œuf de vipère. François Mauriac. Pourquoi lui, Régis Debray? De quoi lui êtes-vous redevable?
Bon, d'abord, rappelons le nom de cette collection nouvelle publiée chez Gallimard, La part des autres. La part des autres, c'est-à-dire des intercesseurs, des éveilleurs, qui nous ont fait grandir. Ils ont les grands aînés qui nous ont aidés à vieillir, parfois un peu mal, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Alors, il y a Mauriac, oui, c'est bizarre même pour moi, mais j'ai été frappé par son bloc-notes, par cette façon dont, à travers ce qu'il appelait les clapotis du quotidien, loin de se prendre au jeu de l'actualité, il a parlé de son âme, et je crois de l'âme du moment, de l'âme du siècle, de l'âme extérieure, avec des petites transeries en passant, n'est-ce pas, comme une voix d'automne. Et donc cette façon de mêler, je dirais, le violoncelle à la vacherie, si vous voulez, c'est-à-dire de mêler un peu l'éternel au quotidien, l'essentiel à l'accidentel, c'était une merveilleuse façon, comme il disait, de rompre avec ce monde tout en y combattant, en mélangeant en quelque sorte les scoops et l'évangile, si vous voulez. Je trouve qu'il y avait chez Mauriac l'art de la double vue, si vous voulez, c'est-à-dire d'un côté l'accidentel, l'événement, et puis une référence à la verticale. Disons, un alliage tertiel, qui me plaît beaucoup tout en n'étant pas croyant, mais je trouvais que cette façon, je dirais, de mêler l'essentiel à l'accidentel, est le verbe et la chair, quoi, quelque chose de sans doute de très chrétien, mais de très courageux dans sa modestie même.
Il y a quelque chose en effet de paradoxal, c'est que pour beaucoup, et vous notamment, Mauriac, disons, passe l'épreuve du temps grâce à son œuvre la plus circonstancielle, alors que nous n'allons pas volontiers relire ses romans. Le journaliste en lui aurait dû disparaître avec les événements dont il parle. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, vous dites, Régis Debray, très bien, dès le début du chapitre que vous consacrez à Mauriac, cela n'est possible qu'à une condition qu'avait remplie en leur temps Peggy comme Bernanos, que l'âme s'en mêle. Et en effet, Mauriac, dans ce bloc-notes, que grâce à vous j'ai feuilleté à nouveau, cite à plusieurs reprises ce vers de Keats. L'âme est elle-même un monde et assume suffisamment à faire chez elle. Et Mauriac ajoute, oui, mais trop tard. Je suis engagé au sens matériel du terme comme un soldat qui a signé son engagement. Que la passion politique m'entraîne ou m'égare, il n'en reste pas moins que je suis engagé dans ces problèmes d'en bas pour des raisons d'en haut. C'est exactement ce que vous dites et c'est ce qui donne cette survie miraculeuse à ce bloc-notes.
Oui, la survie du bloc-notes à Thérèse Descayrou, si vous voulez, c'est-à-dire oui, la survie de ce qui serait accidentel ou conjoncturel et qui en fait résiste au temps parce que l'âme s'en mêle. L'âme est donc le style. Et cette façon, je dirais, de mêler Blaise Pascal à Zizi Jeanmaire est au fond, nous habitue à avoir une sorte de double foyer, n'est-ce pas? Et je trouve ça très stimulant et c'est peut-être une leçon.
C'est sans doute une leçon. Et il y a aussi peut-être une autre leçon. Mauriac disait « L'épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions ». C'est l'idée de l'événement, en quelque sorte, qui surprend toujours, qu'aucune philosophie de l'histoire ne peut englober. Et là, ça me fait penser à Peggy, que vous citez aussi, on est si petit devant la réalité, si petit bonhomme, j'admire ces grands intellectuels qui, du fond de leur mollesquine, mènent la réalité à coups de bâton. Voilà, et c'est pas ce qui se passe avec Mauriac. Il y a une certaine idée de l'événement qui doit nous déprendre peut-être aussi du mépris que nous avons pour l'actu. L'événement, c'est oui, pas l'actu. Mais et en même temps, penser l'événement, ça peut être une tâche philosophique. Régis Debray.
Ça, c'est le prodige chrétien, si vous voulez. C'est la réconciliation, une façon de faire résonner le verbe à même la chair, de faire résonner l'éternel à même le conjoncturel. Effectivement, c'est l'héritage chrétien. Et on peut ne pas être croyant et être très sensible à cette façon, disons, de retrouver Zizi Jeanmaire au bout de l'évangile, tout simplement.
Oui, et puis Mauriac, dans ce bloc-notes, parle souvent d'un autre auteur qui figure dans votre livre, à savoir Sartre. Sartre qui ne l'a pas épargné dans sa jeunesse, puisqu'il a écrit un article qui se terminait par ces mots « Dieu n'est pas un artiste, Monsieur François Mauriac non plus ». Mais ça, c'est très intéressant. Il lit dans Simone de Beauvoir cette anecdote. « Le tombeau de Chateaubriand nous sembla si ridiculement pompeux dans sa fausse simplicité que pour marquer son mépris, Sartre pissa dessus. » Et Mauriac commente « Avec cette miction sartrienne, c'est une ère nouvelle qui commence, celle du crachat ou du pipi sur les tombes illustres. Et nous, nous bercions dans leur tombeau ces morts bien-aimés. Nous reconnaissions la part des autres, même des autres très anciens. » Et donc, il y a là quelque chose que je trouve très fort dans ce que dit Mauriac et dans cette critique du geste un peu ridicule de Sartre.
Oui, il répond à « Dieu n'est pas un artiste, Monsieur Mauriac non plus ». Il lui répond 40 ans après en appelant Sartre une vieille pendule en or, c'est-à-dire un dessus de cheminée inoffensif. Alors que Sartre, c'était terrible pour lui de se découvrir inoffensif, ce qu'il fut en réalité.
Alors, mais pourquoi l'avez-vous choisi aussi?
Je l'ai choisi à cause des mots. Les mots, c'est un point d'orgue. Et c'est, à mon sens, sans doute le plus étincelant de nos bijoux de famille, je dirais. C'est-à-dire, un ennemi de la littérature, qui se déclare tel, nous offre un bijou littéraire.
Un adieu somptueux à la littérature.
Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Alors, bien sûr, on peut dauber les bévues du bideleu, les bévues politiques. Mais cette façon, je dirais, d'accrocher en partant un chef-d'œuvre et de déclarer que il aurait mieux à faire que des chefs-d'œuvre, c'est une façon très élégante de s'absenter.
Mais est-ce que Sartre, dans votre trajectoire, dans votre jeunesse, a compté? Dans ma jeunesse, Sartre n'exerçait plus aucun impérialisme culturel. C'était la fin des années 60, les maîtres à penser s'appelaient Althusser, Foucault, Lacan, Deleuze et bientôt Derrida. Et moi, j'ai aimé Sartre un peu pour le protéger de la condescendance dont il était l'objet. Et j'ai aimé surtout les analyses phénoménologiques. Même dans L'idiot de la famille, je n'apprenais pas grand-chose sur Flaubert, mais je me souviens d'une analyse éblouissante de cette phrase du comte Mosca sur la Sainte Séverina et Fabrice del Dongo, si le mot d'amour vient être prononcé entre eux, je suis perdu. Mais vous, ça a été quoi? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, Sartre a compté dans vos lectures philosophiques, premièrement, puisque vous avez passé une agrégation de philosophie, il y a eu L'être et le néant, et en 1960, La critique de la raison dialectique, livre qui a été d'une importance énorme pour Badiou, entre autres, ou bien votre engagement. Est-ce que vous êtes allé en Bolivie, motivé aussi par l'engagement sartrien, Régis Debray?
J'hésite à vous répondre. Je suis un peu de la génération antérieure à la vôtre, et donc Sartre fut un repère considérable.
Voilà, c'est ça.
Sartre était d'emblée un monument et par rapport auquel il fallait se situer. J'emploie le mot situer, situation. Mais non, parce que Sartre m'est apparu assez vite comme enfermé dans le cogito, enfermé dans un certain individualisme, enfermé dans un moi-je, alors que le nous communiste, et je dirais le nous althusserien, était à l'époque beaucoup plus fort. Donc j'ai un peu, je l'avoue, abandonné Sartre en chemin. Mais j'y suis revenu, bien sûr. J'y suis revenu comme il est revenu à lui-même, si j'ose dire, en écrivant les mots, c'est-à-dire... Je vais vous dire que Sartre était un homme féroce en écrivant, mais un homme gentil. Était un
vous l'avez
homme...
connu?
Ah, je l'ai assez bien connu.
Assez bien connu,
bien
en
entendu.
Plus.
Même si il m'a mis à la porte de chez lui la dernière fois que je lui ai rendu visite, parce qu'il me faisait des éloges de Mao, je lui parlais de Castro, qui l'invitait à nouveau à Cuba, il m'a mis à la porte. Mais Sartre était presque un ami, et je l'ai trouvé très touchant à la fin de sa vie, très pathétique, c'est-à-dire cet homme qui faisait des phrases magnifiques pour nous faire savoir que les phraseurs ne valent pas tripette, cet homme qui en quelque sorte excellait dans ce qu'il disait mépriser, à savoir la littérature, je dirais, pour moi, m'a été quelque chose d'humainement profond. Et puis, cette façon de répudier la religion littéraire avec les mots, tout en faisant l'exploit parfait de littérature, ça me semblait être un magnifique tête à queue, enfin.
Alors, cela dit, en effet, il est allé très loin dans la répudiation de la religion littéraire, et là, je citerai à nouveau Mauriac. Mauriac dit « Tolstoï s'indignait un jour de ce que son fils Serge jouait du Brahms. À côté de nous vivent des gens misérables, ils sont malades, ils meurent et nous ne le savons pas. Nous ne voulons même pas le savoir, nous jouons une musique joyeuse. On croirait entendre notre Sartre, ce Tolstoï miniature. » Et j'en viens à un autre auteur qui s'exprime de la même manière, un des auteurs qui ont beaucoup compté pour vous, qui est présent dans ce livre. Il l'était déjà, vous lui faisiez la part belle dans « Pour l'amour de l'art ». Julien Gracq. Et Julien Gracq dit ceci. Il ne s'est trouvé jusqu'ici qu'une catégorie de gens pour soutenir de temps en temps qu'une paire de bottes vaut mieux que Shakespeare, les écrivains. Et ces paires de bottes, il s'en est même trouvé un et des plus grands pour lâcher la plume et se mettre tout uniment à en fabriquer. Tolstoï, patience, Sartre peut-être y viendra. C'est notre grand écrivain russe. Voilà. Gracq et Mauriac se retrouvent sur cette critique de l'ultra-critique de la littérature. Et Régis Debray, dans ce livre et dans d'autres livres récents, je pense au génie français, vous affirmez de plus en plus, notamment avec Gracq, votre penchant pour la littérature. Comme si même revenu de la philosophie, la littérature était votre ultime patrie. Régis Debray.
Oui, c'est là d'où je suis parti, c'est là où je reviens. Je constate d'ailleurs que la littérature a un avantage sur la philosophie, c'est qu'elle reste beaucoup plus, finalement. Elle a une pérennité. Et là, le sens de la longueur, elle efface les siècles, ce qui fait que on peut être contemporain de Montaigne, plus difficilement des philosophes du XVIe siècle. En tout cas, Gracq, oui, ça a été en quelque sorte la bénédiction de ma fin de vie, si j'ose dire. C'est-à-dire, d'abord, que cet homme rangé puisse être à ce point dérangeant, que cet homme apparemment petit prof, un cartable à la main, soit en fait le trublion de notre tribu, ça m'a beaucoup secoué. Et à travers ce rebelle très boutonné, je dirais en fait hirsute, intempestif, dérangeant, j'ai compris le miracle de la littérature. En tout cas, j'ai aussi compris autre chose, c'est l'alliage de l'histoire et de la géographie, tout simplement. Si
vous... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Vous le dites.
Le paysage histoire, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui quitté le domaine de l'histoire et nous sommes tous des géographes. Grac est là pour nous rappeler qu'il n'y a pas de géographie sans histoire, que pour comprendre la Vendée, il faut savoir un peu ce qu'ont été les Blancs et les Bleus. Et d'ailleurs, c'est curieux, je vous rappelle que Grac, qui avait le sens de l'histoire ô combien, voulait aller en Crimée, dans le Donbass. Il voulait absolument, en 1937, je crois, faire une thèse de géographie sur cette zone qu'il avait compris stratégique. Quoi qu'il en soit, Grac, c'est à la fois les friches et les bordures, c'est-à-dire les pourtours du rivage des Sirtes, les lointains, mais c'est aussi, je dirais, une magnifique combinaison de l'histoire et de la géographie, j'allais dire de la gauche et de la droite, en nous expliquant que l'une sans l'autre, ça marche pas. L'histoire sans la géographie, c'est une catastrophe, et la géographie sans l'histoire, c'est un embêtement. Et donc, il s'alimente aux deux râteliers, le masculin et le féminin, le yang et le yin, l'histoire et la géographie, et la géologie, et la minéralogie, et cette extraordinaire attention à l'entourage immédiat, à l'environnement, a fait que Grac me semble être un auteur pour demain, dirais-je. Un auteur pour demain alors qu'il se méfiait radicalement de l'utopie. Mon seul regret, c'est que cette langue trop riche devienne peu à peu, pour nous autres analphabètes, de plus en plus, je dirais, impénétrable. Mais en tout cas, lire Grac, c'est une obligation, je trouve, pour tout Français adulte, même si c'est, parfois, il faut le faire avec un dictionnaire.
Mais c'est très bien de lire avec un dictionnaire. Mais d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, Régis Debray, Julien Grac était conscient que le français n'en avait plus pour très longtemps. Il y a donc une sorte de mélancolie, d'ailleurs, qui est aussi perceptible dans votre livre. Vous dites la littérature survit, mais le problème, si la langue de la littérature, elle, n'est plus connue, n'est plus parlée, n'est plus honorée, la littérature risque d'avoir de moins en moins de lecteurs, et il me semble que cette inquiétude parcourt votre livre. Vous dites que vous êtes un progressiste ironico-pessimiste, l'héroïco-optimiste n'ayant pas donné les résultats attendus, mais il n'est pas sûr que vous soyez si progressiste que cela, parce qu'il y a tant de choses à sauver. Le mot du progressisme, le verbe du progressisme est changé, mais là il faut sauver la terre, on en parle beaucoup, mais la culture et la langue. On peut se poser la question, la langue est-elle mortelle? Et donc la littérature avec elle? C'est déjà la question de Grac, et il me semble que c'est un peu la vôtre aussi, Régis Debray.
D'abord, les plus honorables des batailles à mener sont peut-être celles qui sont perdues d'avance. Je crois qu'on a, nous, qui sommes des amis de la littérature, on a un certain goût de la défaite. Alors je suis un peu masochiste, vous allez me dire, mais il est vrai que avouez que la défaite, ça donne parfois des très bons romans, des très bons livres. Et qu'on a beaucoup à apprendre, au fond, des fins de civilisation. C'est-à-dire un peu de notre cas. Mais j'avoue que, et c'est ce qui fait de la littérature un enjeu aujourd'hui, c'est sans doute quelque chose de plus. Je pense, si vous voulez, pour parler franc, que le français va survivre à la France. Je pense que la langue reste, la nation passe, et peut-être que c'est une bonne nouvelle, au fond, de découvrir que le meilleur d'un pays ne passe pas. C'est sa langue et sa littérature.
Alors là, je vais peut-être m'inscrire en faux, en citant un auteur présent également dans votre livre, j'en ai été surpris, et agréablement surpris, c'est Barthes. Barthes, dans son dernier séminaire, qui est un chef-d'œuvre, vraiment, la préparation du roman, commente cette phrase de Flaubert dans une lettre à George Sand. J'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. Barthes commente, si Racine passe un jour, c'est déjà plus ou moins fait, ce n'est pas parce que sa description de la passion est ou sera périmée, mais parce que sa langue sera aussi morte que le latin pour l'église conciliaire. Et d'ailleurs, il dit, c'est déjà votre collection, il parle de son désir de la langue française, ce qui explique le choix d'une œuvre filiale. Il voulait écrire une œuvre filiale. Barthes, l'homme de la rupture, l'homme de la modernité, l'homme qui divisait dans les aides la littérature entre ce qui pouvait continuer d'être écrit et ce qui ne pouvait plus l'être, ce qui était complètement périmé. Eh bien, il est sorti de cette discontinuité de l'hypermodernité pour parler d'une œuvre filiale précisément parce qu'il avait une sorte d'angoisse pour la langue. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera de la nation, mais on peut se demander si la langue n'est pas dans un très mauvais état. Et vous le dites aussi pour Gracq.
Non, mais il est symptomatique que, je dirais, que Barthes va survivre plutôt par ses petites improvisations, ses notations, plutôt que par ses dissertations. Que Barthes va survivre, au fond, à la fois par ses mythologies, ces fragments d'un discours amoureux, sa chambre claire peut-être, beaucoup plus que par ses ouvrages compliqués et relativement inutiles sur le langage, la textualité. Enfin, c'est drôle que cet homme qui a donné, je dirais, dans cette mode éphémère de la linguistique reine, de la textualité, du tout langage, va survivre, je dirais, par ses fragments, par ce qu'on peut appeler ses petits côtés. C'est-à-dire, ce qui est très émouvant chez Barthes, au fond, c'est sa mélancolie, oui. son côté Saint Polycarpe, c'est-à-dire, mon Dieu, dans quel siècle m'avez-vous fait naître ? Et lui, il est obsédé par la fin de la littérature, enfin. Il oui. s'estime comme un inutile Cassandre. Il est un peu... Il sonne la fin, enfin. C'est un homme qui va subsister par ses mélancolies, beaucoup plus que par ses enthousiasmes idéologiques.
Oui, c'est vrai. Il a cédé lui-même à ce qu'Antoine Compagnon, qui a été son élève, a appelé le démon de la théorie.
Oui.
Et puis, il a pris la tangente.
Il avait commencé avec mythologie.
Oui.
Et... Ce sont des petites choses. Et il revient à la fin de sa vie.
Oui.
Sur ce qui peut apparaître comme le plus frivole et qui s'avère être le plus durable.
Voilà.
C'est-à-dire les impressions quotidiennes. Disons, il y a un côté chez lui, le côté radical. Rouge au dehors, blanc au dedans, il a voulu faire rouge, il s'est déclaré marxiste, et puis, comme tout le monde, anthropologue et linguiste, et puis, c'est le blanc qui va surnager.
Alors.
C'est-à-dire, les confessions.
Oui, les confessions, c'est vrai.
Les intimités, et il l'a très bien dit à la fin de sa vie. La littérature est constitutivement réactionnaire.
Ah.
Et on peut être révolutionnaire en politique, ou en tout cas progressiste en politique, et admettre que ce qui dure, voire même ce qui réapparaît, c'est le passé. Tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès, disait Verdi.
Oui. Alors, nous reviendrons sur ce caractère nécessairement réactionnaire de la littérature. Mais Barthes, en effet, a participé de cette...
Enthousiasme linguistique.
Cet enthousiasme linguistique, exactement. Alors, mais il a converti cet enthousiasme linguistique en inquiétude pour la langue. Et la langue, j'y reviens, mais ce sera la dernière fois, je vous promets. Je vais donner un exemple de son effondrement. Ce qu'on peut entendre sur des chaînes de radio tout à fait streamables, c'est des phrases comme « on est probablement sur des chiffres beaucoup plus supérieurs à ce qui était annoncé ». Bien, je pourrais en multiplier les exemples. Mais la collection Tracts de Gallimard vient de publier un livre absolument extraordinaire, au sens symptomatique du terme, signé par les linguistes atterrés. Le français va très bien, merci. Et les linguistes, vous voyez que la linguistique revient comme ça, sont des scientifiques de la langue. Quand on est linguiste, on ne se demande pas si les anglicismes, les parlers jeunes, le rap, les tics de langage, l'orthographe rectifiée, l'écriture inclusive, c'est bien ou mal. On observe des faits linguistiques. C'est très intéressant parce que il n'y a pas de valeur, il n'y a que des faits. Et par là même, on n'en finit par ce jugement de valeur. Puisqu'il n'y a que des faits, et donc, puisqu'il n'y a que des faits, c'est que tout va bien. Tout va bien. Les linguistes nous disent, tout est égal et tout va bien. Nous vivons avec ce qu'est devenu une certaine linguistique à l'ère du nihilisme heureux. Non, ça ne s'écroule pas. C'est une mutation, c'est une métamorphose. Rien ne meurt. Rien ne meurt. Voilà le message actuel de la linguistique quand on ose s'inquiéter du destin de la langue. C'est assez ironique de voir cette réponse de la linguistique à Barthes lui-même, après tous les services qu'il a pu rendre justement à la linguistique comme discipline reine. Régis Debray.
Vous savez, les écrivains sont une chose, les linguistes en sont une autre. Les écrivains démentent la linguistique. Je dirais que moi, je suis sensible, si vous voulez, au fait que la France comme puissance, que la France comme mission et vocation aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. Elle peut même faire rire tout le monde. Mais le français est là. Le français survit à la France. Et je dirais, se porte bien. La France n'est sans doute plus une personne au sens politique du mot. Elle a rejoint le troupeau. Mais la langue, l'invention reste présente et c'est à la fois son identité, même si c'est une mémoire, il faut maintenir cette identité vivante. Donc, les préoccupations linguistiques sont un peu compliquées pour moi. J'ai du mal à les suivre, c'est peut-être un effet de l'âge où on devient un peu bête à la fin de sa vie. Mais en tout cas, j'ai de plus en plus de plaisir à lire la littérature française.
Non, mais ce qui m'étonne dans ces préoccupations linguistiques, c'est de vous dire d'abord, il n'y a pas de valeur, il n'y a que des faits, et de prolonger cette constatation par une sorte de valorisation ultime des faits. Voilà, il n'y a que des faits, donc voilà, valorisons les faits, valorisons l'évolution de la langue, et annonçons que tout va bien quand précisément tout va mal. Mais revenons à la littérature, Régis Debray.
Qui va bien?
Ah ben ça, on n'en sait rien.
Bon, moi, il va bien dans la mesure où on peut lire, en tout cas, les écrivains d'hier.
On peut lire les écrivains d'hier. Il y a peut-être des grands écrivains d'aujourd'hui. Il y en aura sans doute demain. La question, c'est de savoir combien de lecteurs. Qui sera encore lecteur?
Oh, il faut accepter d'être minoritaire.
Mais c'est vous qui nous avez parlé de l'entrée dans l'âge de la vidéosphère, Régis Debray. Je suis votre disciple assidu.
Il faut accepter les happy few.
Les happy few. Ben oui, mais il faut accepter qu'ils ne soient pas happy d'être si few.
Ils sont généralement assez malheureux, personnellement.
Bon. Alors simplement, revenons à la littérature, Régis Debray. Vous dites, elle est réactionnaire. Mais, dans votre livre, vous allez plus loin. Parce que vous citez, il y a aussi deux autres présences importantes, Céline et Morand. Je n'ai aucune objection à faire. Mais vous dites à propos de Céline d'abord, quand elle tourne à l'orfèvre, l'incitation au meurtre n'est plus délictuelle mais délectable. À propos de Morand, la profession tibien annonce rarement du très bon en matière esthétique et vous ajoutez, il y a un pacte invétéré entre le faisandé et le délectable comme entre l'insipide et l'impeccable. Autrement dit, vous allez encore plus loin que Gide. Gide, c'est pas avec les bons sentiments qu'on fait la bonne littérature. Vous allez jusqu'à dire, en vous prévalant de l'exemple célinien et de celui de Morand, que c'est avec les mauvais sentiments qu'on fait la bonne littérature. Peut-on aller si loin, Régis Debray ?
En faire une règle absolue serait peut-être osé, et trop osé, mais il est évident que Céline est un sale type, Morand aussi, et ce sont d'admirables écrivains. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de la méchanceté humaine. Les plus méchants peuvent parfois faire des choses admirables. Alors c'est vrai que Céline a inventé la musique, la littérature comme rythme, comme écho, comme musique, comme danse, n'est-ce pas ? Et Morand, qui est l'auteur de France la Douce, tout de même, qui est un manifeste antisémite, nous donne des plaisirs de lecture. Et effectivement, ce qui amène à cette réflexion, le domaine esthétique n'est pas moral.
Oui, mais...
Il n'est peut-être pas politique du tout.
Mais quand même, Régis Debray, pourquoi aime-t-on Céline ? C'est d'abord, évidemment, pour l'extraordinaire nouveauté que représente Voyage au bout de la nuit. Nouveauté stylistique, qualité de la vision. Tout le monde pense à cette phrase « New York est une ville debout » et tout le commentaire sur New York est mort à crédit. Il n'y a pas une trace de vulgarité antisémite. Et je crois que Gide, à un moment donné, je crois que dans son journal, fait crédit de son style, de ses inventions stylistiques, à Céline, pour Bagatelle, pour Un massacre. Ça ne fonctionnerait plus aujourd'hui. On peut pas. On le lira peut-être, mais c'est pas possible.
Le moralisme a gagné sur la littérature.
Non. Bagatelle pour Un massacre est un livre illisible. Franchement, ignoble. Donc, voyez.
C'est pourquoi sa condamnation morale s'impose aujourd'hui, même en littérature.
Oui, même en littérature. Et je veux dire que, or, ce n'est pas le cas de ces grands chefs-d'œuvre. De même, Morand, le journal inutile a été republié. Il y a peut-être des trouvailles stylistiques. Vous en citez une qui n'est pas de, sans doute de ce livre, mais qui est très belle. La mère n'a pas d'âge. Couverte de rides, elle les perd aussitôt. C'est une belle trouvaille. Et par exemple, la correspondance Morand-Chardonne, ça tombe des mains. Tellement la mesquinerie, notamment de Morand, de Paul Morand, s'y donne libre cours. Et ces grands livres ne sont pas affectés par cette méchanceté épouvantable. Donc voilà, c'est pour ça que j'apporte peut-être cette nuance ou ce bémol à ce que vous dites, Régis Debray.
Écoutez, il y a un croisé sexiste, homophobe et raciste chez Céline. Il n'empêche que c'est un grand écrivain. Je ne dis pas que le bon Dieu est une ordure, mais en tout cas, Morand est très près de l'ordure.
Ça, c'est sûr.
Et c'est un admirable écrivain. Donc, j'ai envie de vous dire, abandonnons la morale, abandonnons l'idée du bien quand on affronte le beau. Le kalos kagathos grec, ça marche pas. Le beau et le bon ne vont pas toujours ensemble. Je ne dis pas qu'il suffit d'être un salaud pour être un bon écrivain, parce qu'alors...
Ça se bousquillerait pour Tillon.
J'allais dire que ce serait très facile. J'en serais très content, mais ce serait trop facile tout de même. Non, non. Mais je dis que, par exemple, il faut abandonner notre obsession de profession type bien en matière esthétique.
Il faut l'abandonner.
C'est un peu gênant, mais au cinéma, peut-être que on confierait pas sa fille à Woody Allen.
Si, ça, on n'en sait rien pour Woody Allen.
Mais en tout cas,
il a été innocenté par la justice.
Il y a Caravage, Gauguin, il y a toutes sortes de gens qui se sont un peu mal conduits et qui ont fait des chefs-d'œuvre.
Oui, mais là encore, vous avez raison, mais il n'y a pas de loi. Vous dites profession type bien, peut-être pas, mais je pense en vous écoutant au titre d'un article de Vassili Grossman sur Platonov. Il dit, le titre, Platonov, 2. Le talent de la bonté. Je trouve ça absolument magnifique. Je trouve aussi que chez Vassili Grossman, qui a eu ses défauts, dont il parle d'ailleurs dans ses livres, une humanité absolument extraordinaire. De même que chez son vrai maître, on pense toujours, en parlant de Vassili Grossman, à Tolstoï, Vie et Destin, le Guerre et Paix du XXe siècle, son maître absolu, c'est Tchekhov. Il y a une humanité extraordinaire chez Tchekhov. Et je vais plus loin, Richard, parce que j'adore le titre de votre collection, La part des autres. Et moi, je me suis demandé, mais voilà, admettons qu'il ait une vie après la mort. Je n'y crois pas beaucoup, hein. Mais admettons. Qu'est-ce que ce serait bien? Pourquoi? Parce qu'on pourrait rencontrer, revoir des gens qu'on a admirés. Pour moi, ce serait par exemple Philippe Roth. Et rencontrer des gens, justement, qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître. Et Vassili Grossman, puisque on parlerait toutes les langues au paradis, vous êtes d'accord? Je serais absolument fou de joie de rencontrer Vassili Grossman. J'aurais aucune envie de rencontrer Céline. Et Vassili Grossman, c'est un immense écrivain. De même, Tchekhov. Et je pourrais sans doute en citer d'autres. Voilà ce que c'est pour moi aussi que la part des autres. Donc, il n'y a pas de loi. Le bon et le beau ne sont pas forcément liés. Mais l'humanité peut être aussi une composante du génie littéraire, à travers les exemples que j'ai cru bon de citer, Régis Debray.
Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais parfois on se dit que le moralisme est tout de même, quand il est moraliste,
ah oui,
un ennemi de la littérature.
Absolument.
Et au fond, je crois que l'idéologie... Et le politique doivent être laissés de côté quand on aborde la chose littéraire. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'être un salaud pour faire un ouvrage qui reste dans le temps, hein, on est bien d'accord. Mais je considère qu'il y a une sorte d'autonomie bizarre qui est le miracle de l'esthétique et que on y est de plus en plus sensible. Peut-être à la fin de sa vie, peut-être qu'on se raccroche à ce qu'il y a de plus durable. C'est vrai que il y a un petit avantage de la littérature sur la morale qui vous est chère. C'est que la morale passe et la littérature reste. C'est-à-dire que les échelles de valeur sont précaires. Le rayonnement littéraire traverse les siècles.
Le tu ne tueras point ne passe pas.
Sans doute.
On espère quand même. On espère. Oui, vous avez raison, Régis Debray. Mais l'idéologie, le moralisme sont des phénomènes très inquiétants. D'ailleurs, on les voit s'épanouir aujourd'hui un peu partout, et notamment, hélas, sur les campus, dans les écoles d'art. On ne veut plus regarder Picasso parce que il est misogyne. Certains étudiants en cinéma à la Fémis ou certaines étudiantes refusent aussi de regarder le film de Godard, Le Mépris, parce que Brigitte Bardot demande à Michel Piccoli comment tu trouves mes fesses, ou est-ce qu'elles sont belles mes fesses, etc. Donc on peut avoir peur, et infiniment peur, de ce moralisme. Mais là, je parlais d'autre chose, je parlais de l'humanité, qui est aussi une qualité d'écrivain. C'est-à-dire faire vivre les autres.
Mais
avoir,
oui.
C'est ça, c'est autre chose.
Mais écoutez, on la retrouve chez un Cordier, on la retrouve chez un Genevois. Je ne parle pas que des salauds dans mon livre. Je dis simplement, la littérature est à côté.
Voilà.
Elle est à côté. Ça veut pas dire qu'elle est contre. Elle est, il faut en quelque sorte changer un peu d'uniforme, changer de système, de valeur quand on aborde le fait littéraire. Mais Cordier, qui a été un ami, a été aussi un homme admirable au point de vue moral.
Mais d'ailleurs, il a beaucoup compté pour vous.
Il a beaucoup compté pour
moi.
Et
la résistance aussi, la résistance pour nos générations. Nous avons vécu sous l'ombre écrasante des résistants. Et donc, Cordier. Donc, mais qu'est-ce qu'il vous a appris, Cordier? Quelle est votre dette envers lui, Régis Debray?
Je dirais que c'est une sorte de, peut-être, du choix qu'il faut faire entre l'essentiel et l'accidentel. Cordier a compris en 1940 que l'essentiel était en jeu. Il a sauvé les meubles tout en pensant d'ailleurs que la France était morte. La France est morte en 1940, m'a-t-il dit plusieurs fois. Mais qu'on peut s'en sortir, si j'ose dire, en restant d'abord fidèle à son passé, en sachant lutter contre la calomnie qui a accablé, il faut s'en souvenir, Jean Moulin lui-même. Donc, c'était un homme qui était à la fois engagé et dégagé, c'est-à-dire qu'il considérait une fois la guerre finie qu'il n'y avait pas le feu, il s'est occupé de la peinture, tout en restant fidèle à son passé, à lui. J'aimais beaucoup chez Cordier cette élégance et cette sorte de fidélité au compagnonnage, et qui le faisait aller d'ailleurs, malgré son refus des honneurs et des cérémonies, qui le faisait aller le 18 juin sur le Mont Valérien, dont il m'a dit au plus tard, je me souviens de ce mot, il m'a dit « J'espère ne pas mourir le dernier des compagnons de la libération, parce que le dernier, il doit être enterré, inhumé au Mont Valérien, en sous-sol, et moi, je suis frileux », disait-il.
Il n'aurait pas aimé le Panthéon non plus, alors.
Il n'aurait pas aimé le Panthéon, il n'en a pas été question pour lui, mais...
Mais ça aurait pu, hein.
Non, mais c'est un... Voilà, c'est un exemple du type bien qui avait le sens esthétique. Ça arrive.
Non, mais c'est pas simplement... Quand je parlais de Vassilio Brossman, c'était autre chose. Mais simplement, mais c'est intéressant. Cordier, c'est un résistant de la toute première heure. Même oui. Du 17 juin, je crois.
Oui, il est dès le 18 juin. Il a essayé de partir pour Londres. Oui.
Il a essayé de partir pour Londres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, jeune homme, il était maurassien.
Oui.
Et un certain nombre de maurassiens, d'ailleurs, sont venus rejoindre. Oui. Le général de Gaulle. D'un côté, il y avait Maurras qui parlait de la divine surprise, oui. Non de l'occupation, mais de l'irruption du maréchal Pétain, et de l'autre côté, des jeunes maurrassiens qui s'engageaient dans la résistance, et c'est peu à peu, et devant l'étoile jaune d'ailleurs, que Cordier a perdu tous les préjugés antisémites dont il était imprégné. Donc ça aussi, c'est une trajectoire extraordinaire, qui donne infiniment à penser.
Qui montre qu'il ne faut préjuger de rien et ne pas condamner les gens sur leurs opinions, mais essayer de voir ce qu'ils font.
Voilà, exactement. Et donc, il y a Cordier dans votre livre, il y a un autre type bien, pour reprendre votre typologie, un auteur aujourd'hui négligé, à savoir Maurice Genevoix. Alors voilà, Maurice Genevoix, moi j'ai toujours le projet de lire ceux de 14. Je n'ai pas encore lu ce livre, étant donné mon âge avancé, il faudrait que je le fasse dans des délais pas trop lointains. Mais voilà, que vous a apporté à vous la lecture de Maurice Genevoix, Régis Debray?
Je suis un peu comme vous, je dois avouer. J'ai feuilleté Genevoix, je ne l'ai pas vraiment lu. J'ai connu Genevoix à retardement, si j'ose dire, quand on l'a mis au Panthéon. C'est Bernard Maris, qui était son beau-fils, qui m'y a convié, si j'ose dire, car c'est lui qui a été à l'origine de cette mise à l'honneur de Genevoix. Il s'en est expliqué dans une très sagace analyse comparative sur la guerre, qu'il a appelé « L'homme dans la guerre », Maurice Genevoix versus Ernst Junger, où il défend, je dirais, un style d'héroïsme français. Voilà. J'ai pour Genevoix, bien sûr, de la considération, et un peu comme vous, distante, mais j'ai été frappé à la fois par son enterrement au Panthéon et par, je dirais, par les rebonds qu'il a suscités, notamment chez sa fille et chez Bernard Maris. Voilà.
Oui, Bernard Maris qui a publié donc « L'homme dans la guerre », peu de temps avant d'être assassiné, comme on sait, par les frères Kouachi. Il est une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est un livre très émouvant, mais qui m'a étonné aussi, parce que j'y ai appris que Maurice Genevoix, par exemple, n'avait jamais voulu rencontrer Junger. Il avait l'occasion de le faire, il n'a pas voulu, etc. C'est bon. Ce que je peux comprendre, mais d'un autre côté, j'ai appris aussi que quand il était secrétaire perpétuel de l'Académie française, il a fait des pieds et des mains pour faire entrer Paul Morand à l'Académie française. Il s'est beaucoup démené, et donc il a vaincu les réticences du général de Gaulle, qui a en même temps refusé de le recevoir, comme on sait. Mais bon, donc, en 58, de Gaulle s'y était opposé. 10 ans plus tard, Paul Morand est reçu à l'Académie française, et nul ne doute de ses qualités de grand écrivain, mais ce traitement, comme ça, d'un côté Junger, je veux pas le voir, et de l'autre côté Morand, il faut absolument qu'il entre à l'Académie française, avec quand même le passif qui est le sien, je ne le juge pas, mais je trouve, ça m'a, disons, un peu surpris, quoi. Ça m'a un peu surpris. Mais peut-être aussi, cela tient-il à cet amour sans limite de la littérature française et de la langue dans la littérature. Régis Debray.
Oui, vous me donnez des informations que je ne connaissais pas, je suis surpris, un peu décontenancé, mais après tout, les hommes ont droit à leurs contradictions.
Oui, absolument.
Et il y a là des zones obscures, chacun a droit à ses zones obscures, parfois chronologiques.
Alors, vous ne parlez pas de vos zones obscures, Régis Debray, mais pour finir, il y a un chapitre qui m'est allé droit au cœur, le chapitre obsolescence. Ça, j'ai beaucoup aimé, parce que vous parlez du sentiment entre honte et panique de qui n'arrive plus à extraire dans une gare ou dans une station de métro un simple billet d'un distributeur automatique de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est obligé de constater notre obsolescence, voire celle de la littérature?
Je parle pour nous, mon cher Alain. Nous sommes obsolescents. Mais il n'est pas mauvais de rater le dernier métro. Il n'est pas mauvais de ne pas être de son époque. Si vous voulez, de ne pas être le petit garçon qui court derrière l'omnibus, comme disait, je crois... C'est une citation de Loutréamont. Oui, nous ne sommes pas de notre temps. Peut-être que c'est le propre du temps littéraire. Si vous voulez, le temps littéraire n'est pas cumulatif, il est plutôt rétro. Je dirais que Chateaubriand nous reste plus présent que Lamartine, peut-être Baudelaire que Victor Hugo, peut-être même Flaubert que Zola, peut-être même Proust qu'Anatole France. Donc, on est un peu décalé. On est un peu décalé dans nos admirations, dans nos affinités, dans nos amitiés. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, au fond, peut-être de ne pas être de son temps pour goûter son présent, qui a, c'est sans miracle, une grande part d'héritage.
Une grande part d'héritage. Et vous parliez de... caractère réactionnaire de la littérature, il y a un mot aussi qui peut-être nous devrions revisiter, c'est le mot conservateur. Et là, je vous citerai pour finir une phrase de Valéry, que vous admirez particulièrement, Régis Debray. Ce qui a ruiné les conservateurs, c'est le mauvais choix des choses à conserver. C'est pas mal, hein?
Oui, et l'important aujourd'hui, c'est de ne pas oublier qu'il y a des choses à conserver, et au fond, il n'est pas exclu que la gauche ait le sens de la mémoire.
Très bien. Magnifique conclusion. Merci Régis Debray. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Où de vivants piliers, publié chez Gallimard dans une nouvelle collection La part des autres. Le livre sera disponible en librairie dans quelques jours, le 25 mai exactement. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Alexandre James. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Penser le mal. Mes invités seront Frédéric Lechterflack et Marion Muller-Collard. Dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.